Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, président fondateur et pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Il n'y a aucun amour qui puisse égaler l'amour de notre Père. Notre Père est, je vous assure, quand on commence à étudier la personne du Père dans la Bible, on découvre que c'est une personne extraordinaire. C'est une personne extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire avec moi la Pâque? Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques, non? Hein? C'est le jour de Pâques. Quelqu'un a dit ce matin que c'est la fête des chocolats. Pâques, c'est la fête des chocolats. Les supermarchés sont remplis de chocolats partout, parce que tout le monde se dit que Pâques, c'est la fête des chocolats. Et aujourd'hui, on va se disposer, l'heure que nous allons passer ensemble, je vais partager quelque chose avec vous. Je me suis dit, Seigneur, bon, la Pâques, c'est quelque chose qu'on fête chaque année. Et les gens, pour la plupart, pensent connaître ce que c'est que la Pâques. Et depuis plusieurs semaines maintenant, nous sommes dans une série que l'on a intitulée « La priorité du royaume ». Est-ce qu'on peut dire avec moi « La priorité du royaume » ? Et je me suis posé la question, ok, tout en restant dans ce sujet, qu'est-ce qu'on va dire à l'église ce matin ? Et le Seigneur m'a dit « Parle-leur de la Pâque ». Aujourd'hui, c'est Pâque, non, Luc ? J'ai dit « Oui, Saint-Esprit, c'est Pâque ». Il dit « Parle-leur de la Pâque ». J'ai dit « Mais Pâque, c'est quoi ? Pâque, c'est la fête des chocolats ou c'est... » Il m'a dit « Non ». Va regarder dans la Bible et tu vas regarder la signification de Pâques dans la Bible. Amen. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Tout est spirituel. Est-ce qu'on peut dire avec moi tout est spirituel? Parce que tout est spirituel, le Saint-Esprit te dit ce matin que Pâques, ce n'est pas la fête des chocolats. Pâques a une signification spirituelle dans la Bible, extrêmement importante. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Et moi, je crois que s'il y a un jour dans l'année où les églises doivent être remplies, c'est bien le jour de Pâques. C'est bien le jour de Pâques. Parce que Pâques, c'est quelque chose de très particulier aux yeux de Dieu. Parce que à Pâques, il s'est passé quelque chose de très très fort pour le peuple de Dieu. Et la plupart des enfants de Dieu ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé à Pâques. Tout comme Pâques, tout comme le mariage ne vient pas des hommes, tout comme le mariage n'a pas été institué par les gouvernements, car sache que ce n'est pas le gouvernement gabonais qui a créé le mariage, ni le gouvernement français. D'ailleurs, quand on voit le désordre qui se passe en France, ça c'est sûr, c'est vraiment pas eux qui ont créé le mariage. Tout comme le mariage a été créé par Dieu, a été institué par Dieu, de même Pâques a été institué par Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi la Pâque? Et quand quelque chose est institué par Dieu, il faut y prêter une très grande attention. Le gros problème que Dieu a avec la plupart de ses enfants, c'est leur ignorance. C'est qu'ils ne connaissent pas la parole. Ils ne connaissent pas ce que nous appelons ici depuis plusieurs mois la constitution du royaume des cieux, appelée la Bible, qui est le livre juridique ou encore le livre de l'Alliance ou encore le livre des promesses dans lesquelles sont contenues toutes les promesses que Dieu a faites à ton sujet. Et si Dieu a fait des promesses à ton sujet, alors il est de ta responsabilité, il est très important que tu ailles regarder dans la Bible ce que Dieu a dit à ton sujet. Le problème que Dieu a avec ses enfants, c'est que lorsque nous ouvrons la Bible, la plupart de ses enfants s'ennuient lorsqu'ils la lisent. Le problème, ce qui fait qu'ils s'ennuient lorsqu'ils la lisent, c'est parce que tout simplement, ils ne la lisent pas avec les yeux du Saint-Esprit. Ils la lisent avec les préjugés humains, avec les cœurs humains, avec les raisonnements humains. les opinions humaines. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à percevoir, on n'arrive pas à percer les révélations qui sont contenues dans la parole de Dieu. Mais lorsque on écoute ce que Jésus-Christ a dit, lorsqu'il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Les petits-enfants, ce sont ceux qui sont innocents, ceux qui viennent avec un cœur pur. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5, lors du sermon des Béatitudes, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Les pauvres en esprit, ce n'est pas les pauvres qui vivent dans la misère. Les pauvres en esprit, ce sont ceux qui reconnaissent qu'ils ont soif, qu'ils reconnaissent qu'ils ne connaissent rien et que Dieu doit tout leur apprendre. Ils viennent avec un cœur d'enfant et ils lisent la parole. Et lorsque tu viens lire la parole avec un cœur d'enfant, Dieu te montre des choses te concernant. Car la Bible est comme un miroir. Tout comme le matin quand tu te lèves et tu vas devant le miroir avant de sortir, le miroir te dit, tu vois là dans les coins des yeux c'est sale, tu vois là tu as bavé à côté de ta bouche, il faut que tu nettoies, d'accord? Car tu ne peux pas sortir de la maison comme ça. Si tu sors de la maison comme ça, les gens vont te prendre pour quelqu'un d'anormal. Donc le miroir te dit ce qu'il y a à corriger, tu nettoies le visage et tu te regardes à nouveau dans le miroir te dit, c'est bon, tu peux sortir. C'est pareil pour la Bible. La Bible est aussi un miroir qui te répond aussi sur ton identité. Et lorsqu'il y a des sujets qui ont été révélés ou encore institués par Dieu, il est de notre responsabilité d'aller les étudier pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Donc, les gens qui sont remplis dans les églises, comme on dit, les églises éveillées, les églises évangéliques, les églises catholiques, les églises protestantes, les églises orthodoxes, méthodistes, baptistes, adventistes, quoi d'autre encore? Et tous les istes et les istes, toutes ces églises-là. Les gens qui remplissent les églises, pour beaucoup, ne connaissent pas ce qu'il y a contenu dans la Bible. Ils ne connaissent pas la parole. Et quand on dit Pâques, ou quand on dit mariage, ils abordent ces sujets avec beaucoup de légèreté et d'ignorance, et c'est pour cela qu'on fait beaucoup d'erreurs. Lorsque tu ne connais pas le but d'une chose, lorsque tu ne connais pas, tu ne comprends pas pourquoi Dieu a institué une chose, tu risques d'en abuser. Ou bien tu risques de le banaliser. Lorsque tu veux te marier avec quelqu'un, assure-toi d'avoir compris ce que c'est que le mariage. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet du mariage? Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de l'homme dans le mariage? La position de la femme dans le mariage? Comment est-ce qu'on consomme le mariage? Comment est-ce qu'on bâtit un mariage heureux et prospère? C'est pour cela que lorsque tu vas acheter un appareil électroménager dans un magasin, il vient toujours avec une notice. Mais la plupart d'entre nous, lorsqu'on sort l'appareil, très peu d'entre nous lisent la notice, n'est-ce pas? On prend la notice et puis on la jette sur le côté, on dit « Ah, je connais déjà, je l'utilise et puis voilà ». Non, si le fabricant te donne la notice, c'est pour ne pas faire des erreurs. Et c'est pour cela que quand tu ouvres la notice, il y a une partie qui s'appelle interdiction, chose à ne pas faire. Ne pas exposer à une forte chaleur, ne pas laisser à la portée des enfants, ne pas brancher à une prise électrique, etc., etc. Il te donne des recommandations auxquelles si tu désobéis, tu risques d'avoir des gros problèmes. De même, lorsque tu veux aller te marier, par exemple, je ne sais pas pourquoi je reste sur le mariage, parce que le séminaire approche le 31 mai. De même, lorsque tu t'apprêtes à te marier, tu dois d'abord aller t'asseoir avec ton fiancé et dire, bon, voici ce que Dieu dit au sujet du mariage, voici ce qu'on doit faire et voici les interdictions. Voilà, tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église. Femme, respecte ton mari, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses que Dieu a dites et il sait pourquoi il les a dites. Et beaucoup de gens ont des problèmes parce que tout simplement, ils n'ont pas pris le temps d'aller lire la notice divine sur le mariage. Après, c'est les couteaux et les fourchettes qui se lancent dans la maison. Bon, je ferme la parenthèse. On va y revenir le 31 mai. Amen. Soyons là au séminaire. On parlera de ça en long et en détail. Mais, de même que le mariage a été institué par Dieu, de même, il y a des fêtes qui sont venues directement de Dieu, directement des cieux. La Pâque. Est-ce qu'on peut dire avec moi la Pâque? Et quand je suis allé méditer sur ce sujet toute la semaine, j'ai reçu ça. Et c'est ce qu'on va partager ensemble. 5 vérités que le diable ne veut pas que tu saches au sujet de la Pâque. 5 vérités. Est-ce qu'on peut dire avec moi 5 vérités? 5 vérités que le diable ne veut pas que tu saches au sujet de la Pâque. Car le diable continuera toujours à te faire croire que la Pâque, c'est la fête des chocolats. Non, nous sommes des enfants de Dieu, des fils matures, assis dans le royaume des cieux en communion avec le Saint-Esprit. Et lorsqu'on va devant le Saint-Esprit, il nous dit, fils, tu veux savoir ce que signifie la Pâque? Eh bien, voici, je vais t'enseigner sur ce que signifie la Pâque. Est-ce qu'on peut y aller? On y va? Est-ce qu'on peut dire on y va? Tu vas ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Exode au chapitre 12, à partir du verset 1. On va lire un peu. On va lire un peu. J'espère que tout le monde voit là. Exode chapitre 12, à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un anneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera avec les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus-Christ nous dit dans le livre de Jean, au chapitre 8, au verset 32, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. » Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose d'important, quelque chose que j'ai compris et quelque chose qui m'a ouvert les yeux. Et ma prière, c'est que nous aussi, on puisse aussi le comprendre. Aujourd'hui est un jour spécial. Pourquoi? Parce que nous célébrons la première fête dans le royaume. C'est un jour solennel, c'est un jour extrêmement important. C'est la première des fêtes. Dans le royaume des cieux, il y a des fêtes. Dans le monde, il y a aussi des fêtes. Et dans le royaume des cieux, la première fête, la fête la plus importante, c'est la Pâque. Parce que la Pâque a une très très grande signification. Et je t'assure qu'au sortir d'ici, c'est-à-dire dans les trois quarts d'heure qui vont suivre, tu comprendras ce que c'est que la Pâque. Et chaque année, lorsqu'on t'annoncera la Pâque, tu comprendras que ce n'est pas la fête des chocolats, mais qu'elle a une portée spirituelle très importante pour ta vie. Amen. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, lorsque tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu expérimentes ce que l'on appelle la nouvelle naissance. Tu reçois le Saint-Esprit qui vient habiter dans ton cœur et tu commences une marche avec le Seigneur. Et c'est ce que Paul appelle dans le livre d'Éphésiens, devenir citoyen du royaume des cieux. En devenant citoyen du royaume des cieux, à notre nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe? On embrasse la culture d'un pays. Est-ce qu'on peut dire avec moi la culture? On embrasse la culture d'un pays. Et la culture d'un pays touche tous les domaines. Dans toute nation, dans tout pays, il y a une culture. Et cette culture est composée de beaucoup de choses. Et quand on comprend la culture d'un peuple, on comprend le peuple en question. On comprend son identité, on comprend sa manière de penser. Et ça, c'est quelque chose de très important. Si tu veux comprendre pourquoi dans certains pays, il se passe certaines choses, certaines crises, pourquoi certaines lois sont votées, c'est à cause tout simplement de la culture. Tout à l'heure, je vais insister là-dessus et on va même rester sur ça dimanche prochain par la grâce de Dieu. Et tu ne peux pas devenir citoyen d'un pays sans comprendre la culture de ce pays. La plupart du temps, c'est parce qu'on adhère à la culture d'un pays qu'on veut avoir la nationalité de ce pays. Amen. Il y a 3 semaines de cela, on a partagé un message qui s'appelait « La nouvelle naissance, le prérequis pour devenir, pour acquérir la citoyenneté céleste ». Et on a insisté sur ce que voulait dire acquérir la citoyenneté d'un pays. Aujourd'hui, tu es Gabonais. Imagine que tu veux devenir américain. Je t'assure que le gouvernement américain ne t'accordera pas la citoyenneté américaine s'il se rend compte que la culture américaine, tu ne l'as pas du tout épousée. Vous n'avez jamais vu des gens qui vivent dans un pays, ils ont la nationalité du pays, mais quand vous les voyez vivre, on dirait qu'ils se croient dans leur pays. C'est parce que tout simplement, ils n'ont pas acquis la culture du pays. Et quand tu adhères à un pays, lorsque tu vis dans un pays comme le nôtre, le Gabon, il y a une culture dans notre pays. Et comprendre la culture du pays est quelque chose de très important. Est-ce qu'on peut dire avec moi la culture? Donc, la nouvelle naissance n'est pas une fin en soi. Quand tu nais de nouveau, lorsque tu viens à Christ, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu adhères à une culture. La Bible dit dans le livre de Colossiens au chapitre 1 que nous sommes transportés du royaume de Satan et nous sommes du royaume de Satan au royaume de Jésus-Christ. Nous sommes transportés du royaume des ténèbres au royaume de son fils bien-aimé, le royaume de la lumière. Tout comme dans le royaume de Satan, il y a une culture, de même dans le royaume de Dieu, il y a aussi une culture. La culture, c'est simplement la manière de penser. Est-ce qu'on me suit? C'est la manière de penser. Donc, tu ne peux pas, en tant que citoyen d'une nation, comment dire, aspirer à prospérer dans cette nation sans avoir compris la manière de penser des gens. Amen. C'est très important. Donc, quand le Saint-Esprit arrive dans ta vie, il commence ce travail-là. C'est pour cela que Paul dit dans le livre de Romains, chapitre 12, au verset 1, il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de quoi ? De votre intelligence, c'est-à-dire votre manière de penser. » Parce que le gros problème que Dieu a avec nous, c'est notre manière de penser. C'est que on vient dans l'église, les églises sont remplies de gens qui pensent comme les gens du dehors. Les églises sont remplies de gens qui pensent comme les gens du monde. Mais Dieu ne pense pas comme les gens du monde. Et c'est pour cela qu'on a du mal à marcher avec Dieu. C'est pour cela que beaucoup ont des difficultés à croître dans le Seigneur. Parce que tant que tu n'opères pas un changement radical dans ta manière de penser, Dieu ne peut pas travailler dans ta vie. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de promesses, de miracles qu'on n'arrive pas à expérimenter dans notre vie parce que tout simplement notre foi n'a pas épousé la foi de Dieu ou encore la culture de Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi la culture? Donc, Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 20, il dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Une fois j'ai défini ici ce qu'était qu'un ambassadeur. Ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est très particulier. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est détaché dans un autre pays. C'est quelqu'un qui est détaché dans un pays étranger, représente son gouvernement. Et un ambassadeur, bien qu'il vive dans le pays étranger en question, il n'épouse pas la culture du pays étranger en question. Même si dans le pays en question, on travaille, si lui, dans son pays d'origine, c'est férié, il est férié à l'ambassade. Est-ce qu'on me suit? C'est très important à comprendre parce que dans leur culture, dans sa culture à lui, il doit se conformer aux règles, aux fêtes, aux normes et à tous les symboles qui sont liés à sa culture. Et il doit vivre selon sa culture. C'est très important. Et si Paul nous appelle ici ambassadeurs, c'est parce qu'il nous dit, vous êtes des enfants de Dieu détachés sur la terre, mais vous appartenez au royaume des cieux. Donc, marchez dans le monde, vivez dans le monde, mais ne délaissez pas votre culture, ne laissez pas votre manière de penser. Il faut que lorsque les gens vous regardent, il faut qu'on vous distingue avec les gens du monde. Si, quand on regarde ta vie, elle n'a rien de différent avec les gens du monde, alors il y a un gros problème. Il y a un gros souci. Dieu a un souci. Donc, c'est très important à comprendre. Donc, en tant qu'ambassadeur, on a une culture à véhiculer. On a un message à faire passer. On a une manière de penser à communiquer aux gens. Et c'est ce qui va faire que les gens vont embrasser notre culture et vouloir eux aussi devenir enfants de Dieu. J'avance. Jésus-Christ nous dit dans le livre de Jean, chapitre 17, il nous dit quelque chose de très important. Il est en train de faire sa prière sacerdotale. Et n'oublions pas que lorsque quelqu'un, avant de partir, avant de mourir, fait une prière, les dernières paroles qu'il dit sont des paroles très importantes. Il nous dit, Je leur ai donné ta parole, en parlant des disciples, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Tout enfant de Dieu, chacun d'entre nous, si tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible dit que tu n'es plus de ce monde. Tu n'appartiens plus à ce monde. Et les choses qui sont contenues dans ce monde, tu ne dois pas les embrasser, parce qu'elles ne font pas partie de ta culture. Est-ce qu'on me suit? Jésus-Christ dit, je ne te demande pas de les ôter du monde. Ils vont rester dans le monde. Mais préserve-les du malin. Le malin, c'est qui? Le malin, c'est Satan. Le malin, c'est Satan. Le monde est rempli de la culture de Satan. Je vais vous dire trois choses que j'ai comprises concernant la personne de Satan. Ce que Satan respire, c'est la mort. La respiration de Satan, c'est la mort. Tout ce qu'il touche respire la mort, ce gars-là. Tout. Il respire la mort. La nature de Satan, c'est le péché. Le péché, c'est la nature même de Satan. C'est pour cela que quand Satan entre en Adam, c'est le péché qui entre en Adam aussi. Et la culture de Satan, c'est le monde. Tu veux connaître la culture de Satan? Regarde le monde. Regarde le monde. La culture de Satan, c'est tout ce qui a trait au mal. Tout ce qui a trait au mal vient de lui. Et parce que le monde n'est pas éclairé par l'évangile, parce que le monde ne connaît pas Dieu, le monde est rempli de la culture de Satan. Il vous suffit juste d'allumer la télévision et de vous rendre compte combien le monde est rempli de la culture de Satan. Donc le jour où tu comprends ça, et que ta communion avec Dieu grandit, et que tu grandis avec le Seigneur, tu vas acquérir sa culture et tu vas te rendre compte que la culture du monde, tu ne peux plus l'épouser. Tu ne peux plus la suivre. Et ça, c'est ce que Jean nous dit. Dans le premier livre de Jean, au chapitre 2, au verset 15, Jean nous dit quelque chose d'extrêmement important. Lisez bien. Jean nous dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. La première chose que l'on découvre lorsque l'on étudie le mode de pensée des gens du monde, c'est-à-dire leur culture, on se rend compte que la culture du monde est dominée par le mal. Les guerres, cinématographie pornographique, la sensualité, la haine de son prochain, la violence physique, morale et verbale, la corruption, le vol, l'orgueil, la gourmandise, l'envie, la légèreté vestimentaire, la méchanceté, la cupidité, toutes ces choses-là sont des choses qui sont attachées au monde. C'est la culture du monde. Donc, quand tu viens dans le royaume, Dieu commence à faire un lavage de cerveau. Dieu commence à nettoyer. C'est pour ça que quand tu deviens enfant de Dieu, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu aimais avant, mais que tu n'aimes plus. Parce que le Saint-Esprit en toi les refoule. Les refoule. Est-ce qu'on me suit? Et quelle est la culture du royaume? Paul nous la donne. Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17, il dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Voici la culture du royaume. La justice, la paix et la joie. Dont le premier des commandements dans notre royaume, c'est « Aime ton prochain comme toi-même. » Donc, la culture d'un pays est quelque chose de très important à comprendre. Mais je vais m'arrêter là pour ce point-là. On va insister dessus la semaine prochaine. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est une fête, la Pâque. Et la Pâque fait partie de la culture du royaume. Et la première question que je me suis posée, c'est quels sont les éléments qui permettent de reconnaître la culture d'un pays pour rester là-dessus, rapidement. Il y a un, la langue. Deux, il y a les lois. Trois, il y a les symboles. Par exemple, quand on parle de symboles, par exemple, l'hymne national est un symbole de la culture. Les valeurs que l'on épouse dans le pays sont des symboles. Ou encore le drapeau. Le drapeau est un symbole fort pour une nation. Par exemple, ou encore les armoiries. Pour notre pays, c'est quoi les armoiries? Allez, question civique. Qui connaît? Les armoiries. Union, travail, justice, c'est pas ça? En France, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est quoi la devise? La devise, voilà. La devise. Mais c'est ce qui est sur les armoiries. Non, les armoiries, c'est les symboles, les animaux, là, etc. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des choses importantes qui véhiculent des valeurs dans le pays. Un autre point important pour comprendre la culture d'un pays, la constitution. On en a parlé longuement il y a 3 semaines. Ou encore les coutumes. Qu'est-ce que c'est que les coutumes? Les coutumes, ce sont les valeurs partagées. C'est-à-dire, ce sont les valeurs que l'on partage au quotidien, qui ne sont pas des lois, mais qui, au bout d'un moment, deviennent obligatoires. Ou encore les normes sociales. Les normes sociales, c'est tout ce qui est normal. Tout ce qui est devenu normal. Ici, par exemple, quand vous marchez dans la rue, si on voit un garçon et une fille qui commencent à s'embrasser devant tout le monde, les gens disent hey, « Eh, oh, vous croyez où là? Arrêtez-moi vos histoires. » Quand vous allez en France, c'est rempli de gens qui s'embrassent dans la rue. C'est normal chez eux. Chez nous, ce n'est pas normal. Où est-ce que je veux dire? Les normes sociales. Chez nous, au Gabon, tu vas voir 2 hommes qui s'embrassent dans la rue, je pense qu'on va les bastonner devant tout le monde. Mais en France, je vous assure, aujourd'hui, les hommes s'embrassent dans la rue devant tout le monde, même dans le métro. C'est devenu normal. Et il te suffit de voir ces choses-là pour te rendre compte de la culture du pays. Et il y a un autre point qui est très important également, en ce qui concerne la culture, ce sont les fêtes. Il te suffit de regarder ce que les gens célèbrent dans le pays pour découvrir leur culture, pour comprendre leur culture. Qu'est-ce que les gens fêtent? Sur quoi les gens mettent l'accent? Sur qu'est-ce qui fait jubiler les gens? Une fois, j'étais en train de regarder il y a quelques mois, c'était je crois l'année dernière, ici il y a eu le carnaval, où on a fait venir des Brésiliennes, tout ça là. Elles sont venues, elles ont dansé à moitié nues devant tous les Gabonais. Les Gabonais étaient là. J'ai dit, voici ce que l'on considère et à quoi on accorde de l'importance. Cela nous donne une idée de la culture du pays. Et beaucoup de Gabonais étaient choqués parce qu'ils ont dit, ça ne nous ressemble pas, nous les Gabonais. Mais les personnes qui ont initié ce carnaval, c'est leur manière de voir les choses, leur manière de voir la vie. Mais nous, beaucoup de gens avaient été choqués parce que pour eux, ils n'avaient pas compris que la culture du pays dans lequel ils vivaient, c'était ça. Donc les fêtes sont très importantes. Et tout comme les fêtes sont importantes au niveau naturel, de même dans le royaume des cieux, les fêtes sont aussi importantes. Et Pâques est une fête très importante. Quelqu'un m'a posé un jour une question, il m'a dit, oui, par exemple, on fête Noël. Pasteur, est-ce que Noël est une fête du royaume? Est-ce que Noël est une fête du royaume? J'ai dit, ta question est très très bien posée. Parce que j'ai eu peur que tu me poses la question en me disant, pasteur, est-ce que Noël est une fête chrétienne? Si Noël est, tu m'avais dit, est-ce que Noël est une fête chrétienne? Je t'aurais répondu oui. Est-ce que Noël est une fête du royaume? Non. Parce que dans le royaume des cieux, Noël n'est pas une fête. Noël n'est pas une fête. Noël est une fête chrétienne, à l'origine même païenne. Mais pourquoi dans beaucoup d'églises, dont même la maison du bâtisseur, on fête Noël? On célèbre Noël. Parce que tout simplement, Noël, c'est le seul jour de l'année où le monde entier décide de s'arrêter pour reconnaître qu'un jour le Messie est venu sur terre. Donc nous, même si on fête ça tous les jours, on dit bon, eux ils veulent mettre un accent particulier sur la venue de Christ. Bon, ok, on va fêter avec vous, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème à fêter Noël. Parce que non, je parle de ça parce qu'il y a eu des chrétiens qui sont venus me voir plusieurs fois, qui m'ont dit, mais Noël c'est pas une fête, moi je quitte cette église. Pourquoi on met les arbres de Noël maintenant sur les strates, tout ça, etc. C'est pas une fête Noël, etc. J'ai dit, mais où est le problème? C'est le jour où on fête Jésus. Sois content. C'est le jour où les païens fêtent Jésus. Sois content. Donc célèbre Noël avec les païens. C'est le seul jour à la rigueur où tu peux encore évangéliser et parler de Jésus à quelqu'un. Comme tu n'arrives pas à le faire dans l'année, c'est le seul jour où tu peux dire, bon, on va parler de Jésus aujourd'hui. Et la deuxième question que je me suis posée, c'est quelles sont les fêtes du royaume? Et on va passer dessus rapidement. Quelles sont les fêtes du royaume? Lévitique 23:2 nous dit, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. C'est Dieu qui parle ici. Hein? Dieu dit, voici quelles sont mes fêtes. Ça veut dire que Dieu a des fêtes. Dieu a des fêtes. Au ciel, il y a des fêtes. Quand nous on fête, L'indépendance du Gabon ici, au ciel, ce n'est pas la fête. Donc, dans l'église aussi, on ne fait pas la fête quand c'est l'indépendance. Non, parce que j'ai déjà vu ça. Le jour de l'indépendance du pays, tu vois, les gens ils sont absents de l'église. Mais tu étais où? Ben, c'est l'indépendance aujourd'hui, frère. On fait la fête au bord de mer, je ne sais pas moi. Où? Ce n'est pas une fête pour Dieu. Mais Dieu, lui, il a ses fêtes. Quelles sont les fêtes de Dieu? La première fête de Dieu, la première fête dans le royaume, c'est la Pâque. C'est la première des fêtes. C'est très important de comprendre ça. Je fais une parenthèse là-dessus. Je vais y passer très très vite, mais je fais une parenthèse là-dessus parce que c'est un sujet que très peu de gens comprennent. La première fête, c'est Pâques. La deuxième fête, c'est la fête des prémices. Est-ce qu'on peut dire comment la fête des prémices? La fête des prémices, la Bible l'appelle la fête des récoltes. Il est écrit dans Lévitique 23 au verset 9. L'Éternel parla à Moïse, je vais lire rapidement, parla à Moïse en lui disant ceci. « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de deux dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain ni épi rôti ou broyé jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle par vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. » Maintenant, quelqu'un va me dire, mais la fête des prémices, on fête ça quand? C'est quoi cette histoire de fête des prémices? Je vais te dire ce que c'est que la fête des prémices. Parce que, sans t'en rendre compte, c'est un débat dans l'Église qui crée beaucoup de problèmes. La fête des prémices aujourd'hui est symbolisée par la dîme. La dîme. Il y a des gens aujourd'hui dans l'Église qui se sont levés et qui ont dit que la dîme, ce n'est pas du Nouveau Testament. Ce n'est pas, on n'a pas à donner la dîme. Faux. La dîme répond à la fête des prémices. La dîme répond à une loi que l'on appelle la loi des prémices. C'est une loi qui est très importante. C'est une loi qui est divine. Ce n'est pas une loi qui a été instituée par Moïse. C'est une loi qui est divine, qui a été implantée dans la terre avant la fondation du monde. C'est une loi spirituelle. Et tout comme les Juifs, à l'époque de l'Ancien Testament, chaque semaine, le premier jour après le sabbat des Juifs, c'est le samedi. C'est le jour du repos. Et le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Et les Juifs, chaque dimanche, chaque lendemain de sabbat, ils amenaient toujours les prémices de leur récolte. Chaque dimanche. Et ils obéissaient à quoi? Ils obéissaient à une loi divine que Dieu leur avait donnée. Et Dieu dit ici que c'est une loi perpétuelle pour tous vos descendants. Les descendants, c'est qui? Ce sont les descendants d'Abraham. Les descendants d'Abraham, c'est qui? C'est nous. Donc, quand on te dit que c'est une loi perpétuelle, tu n'as pas à te demander cette histoire de l'Ancien ou Nouveau Testament. C'est une loi qui est éternelle. Tu dois y obéir. Tout simplement. Amen. C'est très important. La loi des prémices. Et c'était une fête pour Dieu. Donc, chaque début de mois, lorsque tu apportes ta dîme, c'est un jour de fête. Même si parfois la dîme fait mal, Dieu dit fais la fête. Quand tu apportes ta dîme, sois heureux et content. Parce que c'est une grâce et une bénédiction que je vais te faire après derrière. Les gens pensent que la dîme, c'est comme si on dirait on retire quelque chose. Non, tu donnes à Dieu ce qui lui revient de droit pour qu'ensuite derrière il te bénisse à nouveau. Ni plus ni moins. On avance. La troisième fête du royaume pour Dieu, c'est la fête qu'on appelle la fête des semaines ou encore la fête de la moisson que l'on appelle couramment dans notre langage la Pentecôte. La Pentecôte obéit simplement à la fête de la moisson. La fête de la Pâque était célébrée le premier mois de l'année et 50 jours plus tard, on comptait, Dieu avait dit vous comptez 7 semaines. 7 semaines, c'est ce qu'il dit dans Lévitique 23 au verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. le jour de la Pentecôte, il faut apporter une offrande. C'est ce que Dieu dit ici. Vous apporterez de vos demeures des pains, deux pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Verset 21, ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Il rajoute, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. C'est pour cela qu'on célèbre toujours la Pentecôte chaque année. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ a été crucifié et qu'il est ressuscité le dimanche de Pâques, 50 jours plus tard, pouf, le Saint-Esprit est venu sur terre. Il faut bien comprendre la Bible, hein. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ces choses-là. La Pentecôte, la quatrième des fêtes, c'est la fête des trompettes. La fête des trompettes, pour l'Ancien Testament, symbolisait simplement un jour de repos. C'est-à-dire, dans le camp juif, on sonnait de la trompette et tout le peuple se rassemblait pour se reposer. Et cette fête-là est une fête qui est prophétique parce que tout simplement, elle annonce le repos éternel que l'Église va avoir dans le futur. La cinquième fête, c'était le jour des expiations. Jour de repentance et d'humiliation pour tout le peuple. C'était un jour où le peuple venait s'humilier de ses fautes et de ses péchés. C'est ce qui est expliqué en Lévitique 23 au verset 26, lorsqu'il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. C'est une autre fête. Et la 6e fête, c'est la fête des tabernacles ou encore la fête des récoltes, fête commémorative symbolisant la rédemption du peuple de Dieu hors de l'Égypte, c'est-à-dire hors du monde. La fête des tabernacles. Qu'est-ce que la fête des tabernacles? Quelqu'un va te dire, mais moi je ne connais pas cette histoire de fête des tabernacles. Mais si, on fête la fête des tabernacles une fois par mois ou toutes les semaines dans certaines églises. Tu veux savoir comment? Par la Sainte-Seine. La Sainte-Seine symbolise la fête des tabernacles. La fête des tabernacles était une fête commémorative qui symbolisait la rédemption du peuple, la renaissance du peuple sorti de l'Égypte où il était en esclavage. Et la Sainte-Seine symbolise simplement cela. La Sainte-Seine symbolise, nous prenons le temps de nous souvenir de la mort de Christ et de notre renaissance avec lui. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Et chaque mois, nous faisons cette fête-là. C'est pour ça que la Sainte-Seine est quelque chose de très important. Et enfin, le dernier jour solennel, c'était le sabbat, qui était le jour du repos, le 7e jour. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la Pâque. Pâque, c'est la première fête dans le royaume. Qu'est-ce que c'est que Pâque? Pâque est un symbole fort dans le livre de l'Alliance, dans la Bible. Quand on regarde de près la célébration de la Pâque, on se rend compte que les événements de la mort et de la résurrection de Christ se sont réalisés à la Pâque. Christ a pris son dernier repas avec ses disciples à la Pâque. Le sacrifice d'Isaac symbolise cette résurrection, de même la sortie du peuple juif d'Égypte symbolisait aussi cette résurrection. Josué, après avoir passé 40 jours dans le désert avec Moïse, au moment où ils sont sur le point de traverser le Jourdain, pour aller conquérir Jéricho, qu'est-ce qu'ils ont fait? On l'a vu ici pendant 2 mois lorsqu'on a enseigné sur le thème à la conquête des promesses. Ils ont célébré la Pâque. Ils ont dansé, ils ont chanté alors qu'ils allaient au combat et peut-être même ils allaient mourir. J'ai même dit que c'était quelque chose de fort. Les gars, ils vont faire la guerre, ils vont aller se zigouiller, mais eux, ils font la fête avant. Dieu dit, faites la Pâque, célébrez. Et en fait, quand ils célébraient la Pâque, ils étaient simplement en train de sceller dans le spirituel leur victoire contre leurs ennemis. Donc, Pâques n'est pas la fête des catholiques et encore moins la fête des chocolats. Pâques est la première fête dans le royaume. Et il y a 5 choses qu'il faut savoir, 5 vérités qu'il faut comprendre au sujet de la Pâque. Est-ce qu'on peut dire avec moi 5 vérités? La première vérité, la première chose à comprendre, à savoir au sujet de la Pâque, la première vérité, c'est que la Pâque symbolise la fin de l'esclavage au péché. Première chose à comprendre. 1 Corinthiens 5, au verset 6, nous dit ceci. C'est Paul qui parle à l'Église. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Tu vois? Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous? Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Est-ce qu'on peut dire amen? Paul disait cette parole dans un contexte de péché, où les gens dans l'église, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, vivaient dans le péché ou encore toléraient le péché. Et il disait, mais vous ne réalisez pas que Christ, qui est notre Pâque, nous a délivrés du péché et vous, vous tolérez le péché dans l'église. La Pâque symbolise simplement cette libération-là que nous avons obtenue, cette liberté-là que nous avons obtenue en Christ. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Et quand j'ai demandé au Saint-Esprit, que signifie Pâque? Il me dit, Pâque 1 signifie que tu es délivré totalement du péché. Le péché n'a plus d'emprise sur toi, le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. Il y a des enfants de Dieu qui disent, je n'arrive pas à me défaire de tel ou tel péché. J'ai dit, tu n'arrives pas à t'en défaire ou bien tu as choisi de ne pas t'en défaire? Parce que si tu es né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, alors le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Oui, mais je ne sais pas, je n'y arrive pas, je reçois des oppressions, je n'arrive pas à résister et puis je le fais. Faux! Parce qu'il y a une loi que l'on appelle la loi de l'esprit de vie, Romains 8, qui dit que cette loi est supérieure à la loi du péché et le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, parce qu'il n'y a plus de condamnation, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et pourquoi Paul dit ici, Christ est notre Pâque qui a été immolé. Il dit, soyez donc une Pâque nouvelle, puisque vous êtes, il dit, vous êtes sans levain. Le levain ici, c'est quoi? Le levain, c'est simplement le péché ou encore le signe de la méchanceté et de l'impureté. Et Paul dit, vous êtes sans levain. C'est-à-dire la méchanceté par le Saint-Esprit n'habite plus en vous. Le péché par le Saint-Esprit n'habite plus en vous, donc vous n'avez plus à le tolérer au milieu de vous, car vous avez été totalement libéré de ce péché. Mais ce que Paul condamnait ici, ce sont des choses que l'on voit encore dans l'église aujourd'hui. Combien de fois dans les églises on trouve des choses qui ne vont pas? Combien de fois avons-nous entendu des histoires dans l'église de personnes vivant dans la débauche, pire même que les païens? Et même quand les païens voient ça, les païens disent, chrétiens, vraiment, vous n'êtes pas normaux, vous êtes fous. Combien de fois avons-nous entendu des histoires dans l'église où des pasteurs, le pasteur sur l'estrade couche avec plein de filles dans l'église? Le païen voit ça et dit, oh, même moi, même si je ne crois pas en Jésus, je ne pouvais pas faire une telle chose. Là, tu es fort. Combien de fois avons-nous entendu des détournements d'argent dans l'église? Combien de fois entendons-nous toutes sortes d'abominations dans l'église? Le non-chrétien regarde et dit, waouh, vous êtes fort. Vous vous retrouvez là tous les dimanches, vous montrez au monde que vous êtes saint et parfait, mais en fait, entre vous à l'intérieur, c'est comme ça. Waouh. Et Paul dit, et vous êtes enflé d'orgueil. Soyez une pâte nouvelle. Soyez une pâte nouvelle. Est-ce qu'on peut dire que moi, je suis une pâte nouvelle? Donc, faites disparaître la méchanceté. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Pourquoi? Parce que Christ, votre Pâque, a été immolé. Christ, vous êtes délivré totalement du péché. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur vous. Aujourd'hui, tu marches dans l'assurance en Christ. Et lorsque le péché vient se présenter à toi, tu lui résistes ferme. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'aucune tentation ne vous est survenue si elle n'est si... j'ai oublié le verset. Aucune tentation ne peut être supérieure à vous. Je la résume comme ça, version Luc Ondias. Donc le levain est le symbole du mal et du péché et de la méchanceté. Mais il n'a plus aucun pouvoir sur vous. Et Pierre insiste encore. Pierre nous dit, j'aime beaucoup ce verset, Pierre nous dit, dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 18, il dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Le prix de la liberté, le prix pour nous rendre libres, a été payé par Jésus-Christ. Et parce que ce prix était fort, alors notre liberté est quelque chose auquel on doit accorder beaucoup de valeur. Lorsque tu mènes une vie où tu te laisses aller à toutes sortes de convoitises et de péchés, tu es en train de mépriser le prix que Christ a payé. C'est ce que Pierre dit ici. Il dit ce prix-là, ce n'est pas un prix acquis par, avec de l'or ou de l'argent, mais par le sang de Christ. Le jour où tu comprends la portée spirituelle du sang de Jésus, je t'assure, le péché, tu dis non. Le jour où tu comprends ça, tu dis plus jamais je vais retomber là-dedans. Parce que ce que Christ a fait, si tu vas avoir un aperçu, si tu n'arrives pas à te faire une idée, tu vas avoir un aperçu. Aujourd'hui, c'est Pâques, non, c'est la fête de Pâques. Tu vas, tu prends le DVD La Passion de Christ de Mel Gibson et puis tu regardes ce que Jésus-Christ a subi pour toi. C'est un film, même si je l'ai déjà vu plusieurs fois, chaque fois que je le regarde, je pleure. Tu dis, ah! Et ce film ne fait qu'illustrer une partie de ce qu'il a subi. Mais ce qu'on voit déjà, c'est déjà grave. Et tu te dis, mais ce gars-là a payé ça pour moi. Le jour où j'ai regardé ce film au cinéma, j'étais à Paris, il y avait trois musulmans qui étaient assis à côté de moi. Trois femmes musulmanes, non, deux femmes et un monsieur. Elles avaient leur voile, tout ça. Et puis elles étaient venues par curiosité regarder le film. Pendant tout le film, ils étaient en train de pleurer. Des musulmans. Et puis à la fin, je leur demande, mais pourquoi vous avez pleuré pendant tout le film? Ça, ils disent, Han, Allah, nous on est musulmans, tout ça. Mais vraiment, si c'est ce que Jésus-Christ a fait, vraiment, mais pourquoi il a fait ça? Il n'était pas obligé de faire ça pour nous. J'ai dit, ah, vous pensez qu'il a, vous êtes d'accord avec le fait qu'il a fait ça pour vous? Il dit, oui. Ah, vraiment? Bon, moi je suis musulmane, hein, mais tu sentais qu'elle avait été touchée. Elle avait été touchée. Donc, aujourd'hui, le prix qui a été payé par Jésus-Christ est un prix fort. Et c'est un prix auquel on doit accorder beaucoup de valeur. Hier soir, j'étais en train de regarder la télévision. Avant d'aller, j'étais en train de méditer sur la parole. Et puis, pendant ce temps, la télévision était allumée. J'étais en train de faire le point sur le culte, tout ça. Et puis, la télévision était allumée. Et puis là, sur la chaîne Une Française, il y avait un frère en Christ que je connaissais dans le passé qui passe à une émission connue de Voice. Une émission où les gens viennent chanter. Et puis, je vois la tête du gars, je dis, oh, mais c'est elle? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est un chanteur, musicien à Paris, qui est très connu dans le milieu chrétien. Puis je le vois. Et puis je le vois, il vient, il chante, il danse, il a les paillettes, il danse, il tourne les reins. Et puis quand tu vois la chanson sur laquelle il danse, c'est vraiment « Baby, I love you », etc. Sexy, nanana. J'ai regardé pendant 3 minutes son show. Et puis quand ma femme est venue au salon, j'ai dit « Vraiment, ça, si c'est pas ce qu'on appelle avoir rétrogradé, vraiment. » Vraiment. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le prix que Christ a payé pour lui. Même si tu sais que tu as reçu un don et que tu veux absolument chanter, mais au point d'aller te vendre comme ça en public devant les païens, c'est que tu n'as pas compris pourquoi Christ est mort pour toi à la croix. Amen. Deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est que la Pâque symbolise la naissance d'une nouvelle ère pour le peuple de Dieu. Lorsque la Pâque a été instituée, c'est lorsque le peuple était sur le point de sortir de l'Égypte. La nuit où l'ange destructeur devait arriver pour pouvoir prendre les premiers-nés, comme Dieu l'avait annoncé, Dieu avait demandé à Moïse, dit au peuple d'Israël, de mettre du sang de l'agneau sur chacun des lenteaux de chaque maison. Et lorsque l'ange passera, quand il verra le sang, il ne rentrera pas pour vous faire du mal. C'est écrit dans... Je ne sais plus c'est écrit où. Oui, Jean 8, 32, il nous dit ceci. C'est Jésus-Christ qui nous dit ceci. Amen. Jésus-Christ nous dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, elle vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il n'y a aucune liberté en dehors de Christ. Et depuis que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité, il est notre Pâque. Et toute personne qui subsiste, qui existe en dehors de Christ, ne peut pas expérimenter cette liberté. Amen. Tout simplement. Et Pâques symbolise la naissance d'une nouvelle ère pour le peuple de Dieu. Tout comme l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir et que le peuple juif avait été libéré de cet esclavage-là, de cette emprise-là que Pharaon avait sur eux, que le monde de l'Égypte avait sur eux. De même, Pâques, chaque fois que nous célébrons Pâques, nous sommes en train d'annoncer à tout le monde que aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous sommes non seulement libérés, mais le monde n'a plus d'emprise sur nous. C'est ce que nous annonçons. Et la liberté que nous avons, Paul dit, ne l'acquérez pas en vain. Ne l'acquérez pas en vain, parce que le prix a été fort. Et quand Jésus-Christ parle du péché ici, il dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Le péché ici, ce ne sont pas les œuvres de la chair. Coucher avec les femmes, mentir, voler, se corrompre, etc. Ce n'est pas de ça dont il parle. C'est pour ça que les gars lui disent, mais nous sommes les descendants d'Abraham. Comment tu peux dire qu'on est esclave du péché, frère? Hein? Comment tu peux dire ça? Jésus-Christ dit, si le Fils ne vous affranchit, vous n'êtes pas réellement libre. En fait, le péché dont il parlait, c'était le péché avec un grand P. C'est-à-dire la condition spirituelle dans laquelle vous êtes, qui fait que vous êtes séparés de Dieu. Mais en moi, Jésus-Christ, lorsque vous abandonnez à moi et que vous me confessez comme votre Seigneur et votre Sauveur, il y a une reconnexion qui se fait avec le Père. L'essence divine du Père peut à nouveau couler chez vous. Vous êtes lavé de votre péché. Vous êtes purifié de votre péché. Et chaque fois que nous célébrons Pâques, c'est ce que nous annonçons. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Galates 5:1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, sois ferme? Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Demeurez ferme. Parce que Christ est votre Pâque qui a été immolé. Le péché viendra frapper à votre porte. Il y a des circonstances dans la vie qui viendront se présenter à toi et qui mettront ta foi en doute. Il y a des épreuves que tu traverseras, je t'assure, rassure-toi, il y a des épreuves que tu traverseras qui viendront et qui remettront en question ta relation avec Dieu. Il y a des situations que tu connaîtras qui remettront en question ta communion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est sûr. Mais Paul dit que lorsque tu traverseras ces situations, assure-toi de ne pas aller te mettre sous un joug étranger. Il y a des situations qui se présenteront à toi où des gens voudront s'associer à toi. Et si tu veux t'associer à ces personnes qui ne connaissent pas Christ, tu te mettras sous leur joug. Et ça te coûtera cher. Ne vous laissez pas mettre sous un joug étranger. Tenez ferme. Et pourquoi il dit tenez ferme? Parce que tout simplement, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Mais ta foi est ce qu'il y a de plus, est ce que tu as de plus précieux. Et chaque fois que nous célébrons Pâques, nous déclarons non seulement haut et fort notre liberté en Christ, mais nous déclarons aussi au monde des ténèbres que, gars, no way, on ne retourne pas là-bas. C'est pour cela que quand on fait la fête, on doit faire une fête telle que tout le quartier doit savoir qu'on fait la fête. Le monde des ténèbres, les sorciers, tous ces gens-là qui sont dans les fétiches, qui veulent nous tirer dessus, faut qu'ils sachent que ici, là, dans l'église, nous sommes libres en Christ, protégés par le Saint-Esprit et rien ne peut nous nuire. Au nom de Jésus, Amen. Quand on dit on fait la fête, il faut que les gens sachent. Il faut faire du bruit. Il faut faire du bruit. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Josué, quand le peuple a fait la fête avec Josué, ils étaient juste de l'autre côté du Jourdain. Et puis Jéricho était là. Les gens de Jéricho les regardaient. Vous savez, eux, ils faisaient la fête, ils faisaient du bruit, ils dansaient, ils buvaient. Les gens de Jéricho disaient, oh, mais ça, ce sont les gars qui vont venir nous combattre demain. Mais pourquoi ils font la fête comme ça? Les gars font la fête parce qu'ils sont en train de vous annoncer qu'ils vont vous tuer. Et ils vont vous tuer. C'est pour cela que j'avais dit ici une fois que quand tu es face à une situation où tu sais que là, c'est ma percée, mais tu sais que la montagne est dure à franchir, mais tu sais que là, si la porte s'ouvre, tu commences à danser. Tu vois la situation, mais tu danses. Ah, tu danses. Tout comme David était devant Goliath. Et puis Goliath dit, tu viens avec une fronde, un caillou, tu me prends pour un chien. David dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Oui, tu es un chien. Et je vais au nom de l'Éternel te tuer. Tu vois, tu te retrouves face à une situation, tu ne sais, les gens te disent, gars, là c'est compliqué. Tu sais pas comment, on ne sait pas comment tu vas faire. Mais tu dis, oh frère, moi je danse. Parce que je sais que la percée que je vais avoir là demain, vous n'allez plus me reconnaître. Amen. Donc c'est très important de comprendre cela. Ça symbolise une nouvelle ère. Une nouvelle ère. Donc la célébration de la Pâque est la déclaration officielle de notre liberté en Christ. Et nous ne sommes plus sous le joug de la servitude. L'ère de la liberté, l'ère de l'autorité retrouvée, l'ère de la position initiale de domination et de gouvernance retrouvée, l'ère de la prospérité retrouvée, l'ère de la paix, l'ère de la communion avec le Saint-Esprit retrouvée. Parce qu'il fut un temps où le Saint-Esprit n'était pas sur la terre. Il fut un temps où le Saint-Esprit, nous n'y avons pas accès. Mais depuis le jour où le Saint-Esprit est revenu sur terre et que nous sommes en communion avec lui, alors il n'y a pas de plus grand privilège. Gloire à Dieu. Paul nous dit ceci dans Éphésiens 3, verset 8, pour finir avec ce point. Paul nous dit ceci. J'aime beaucoup ce passage, il est très important. Je suis le moindre de tous les croyants. Pourtant, Dieu m'a accordé cette faveur d'annoncer aux non-juifs, c'est-à-dire aux païens, la richesse infinie du Christ. Suivons bien. Je dois mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son plan secret. Est-ce qu'on peut dire avec moi son plan secret? Lui qui est le créateur de toutes choses, il a tenu caché ce plan depuis toujours afin que maintenant, grâce à l'Église, est-ce qu'on peut dire grâce à l'Église, les autorités et les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse divine sous tous ses aspects. Une autre version de la Bible dit la sagesse infiniment variée de Dieu. Tout cela est conforme au projet éternel de Dieu qu'il a réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans l'union avec le Christ et par notre foi en lui, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. Il dit, maintenant, grâce à l'Église, les autorités et les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse infiniment variée ou encore la sagesse divine sous tous ses aspects. Quelle est la sagesse de Dieu? Quelle est la sagesse infiniment variée de Dieu que les autorités et les dominations, anges comme démons, aujourd'hui connaissent? Cette sagesse s'appelle l'Église. C'est pour cela que Paul rajoute plus loin dans Colossiens, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pâques, pour nous, c'est le moyen de célébrer et de déclarer haut et fort, au son de la trompette, au monde entier, aux autorités et aux dominations dans les lieux célestes, que nous, l'Église, nous sommes la sagesse infiniment variée, la sagesse divine de Dieu. Le plan secret, caché depuis la fondation du monde, ce plan aujourd'hui a été révélé. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois le plan de Dieu révélé au grand jour. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois la sagesse de Dieu. Même si tu dis, ah Seigneur, moi vraiment, ma vie, ce n'est pas vraiment le reflet de la sagesse. Dieu dit, tu es ma sagesse. Mais comment je suis ta sagesse? Parce que l'esprit de sagesse habite en toi. Tu es ma sagesse. Donc, chaque fois que l'Église célèbre la Pâque, elle annonce haut et fort aux puissances et aux autorités des lieux célestes que la sagesse de Dieu, nous l'Église, a été révélée aujourd'hui au monde entier. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, gloire à Dieu? Donc, j'ai envie de dire que tu es une personne de grande valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse jamais quelqu'un te rabaisser. Oh, le jour où j'ai compris ces choses-là, je vous assure, même la démarche change. Mais même la démarche change. Regardez, moi j'ai assisté à des scènes où j'ai vu des autorités du pays. L'autorité est là, mais la manière dont les gens se comportent devant l'autorité, c'est comme s'ils se rabaissent. Oh, DG. Embrasse-lui les pieds aussi pour l'entier. Et quand la personne arrive à mon niveau, au moins il me salue. Moi je suis là, main dans la poche. Monsieur, bonjour. Il me regarde genre, mais toi tu dis, pourquoi tu ne t'abaisses pas comme les autres? Je dis, mais gars, toi c'est toi, moi c'est moi. Moi je sais qui je suis. Toi tu es peut-être telle autorité, mais moi je suis fils du Dieu très haut, frère. Je ne suis pas n'importe qui. Ambassadeur de Christ sur terre, fils du Dieu élevé. Tu crois quoi? Tu n'es pas n'importe qui. Oui, ta fonction, je la respecte, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Toi, tu es peut-être tel, moi, je suis ambassadeur. Si je suis ambassadeur, je représente mon gouvernement, les lieux célestes. Il va dire, oh, laisse-moi ça. J'ai dit, ah bon, tu veux jouer à ça? Il suffit juste que j'élève et que je prie là, tu vas transpirer. Ah, mais oui. Mais oui. Une fois, j'assistais à une scène en banlieue parisienne, ça m'avait fait sourire. Il y avait un gars qui était sur une estrade, c'était un samedi, et puis c'était il faisait une fête pour les jeunes, et puis il commençait à parler de l'islam devant tout le monde. Il disait, ah, non, non, non. Et puis il y a un monsieur, apparemment qui était pasteur, qui se lève, et puis il dit, mais monsieur, l'événement, c'est pas pour venir parler de religion. Pourquoi vous venez nous parler de l'islam comme ça devant les jeunes? Vous voulez convertir les gens ou quoi? Oh non, Allah c'est le vrai. J'ai dit, non, mais ça c'est toi, c'est ce que toi tu crois. Il n'y a pas de problème. Mais nous ici, on est venu assister à un concert de musique. On n'est pas venu assister à une campagne d'évangélisation. Hein? Oh, mesdames. Et puis le gars s'amuse à sortir au pasteur que, oh, tu ne pries pas le vrai Dieu. Moi, je prie le vrai Dieu. Ah ah. Le pasteur dit, bon, moi, j'ai aucun problème avec les musulmans. Il n'y a aucun problème. Mais ce que tu viens de dire là, je sens comme l'onction du prophète Élie qui monte en moi. Hein? Donc, on va voir qui est le vrai Dieu aujourd'hui, là. Le pasteur est monté sur le stage et dit, ah, tiens, je vais voir ce qu'il va faire, tiens, donc. Et puis, le gars dit, ok, toi, c'est le vrai Dieu. Ok, on va voir qui est le vrai Dieu. Prie. Moi, je vais prier ensuite. Toi, prie d'abord. Il dit, je prie. Il dit, le pasteur dit, prie. Donc, nous tous, on est là, avec tous les jeunes qui sont là, les mains dans les poches, toutes les racailles, et là, ils sont tous là. Bon, ok, on va voir, ok. Prie. Il dit, ok, ben... Il commence à faire ses prières normales, qu'il fait d'habitude, tout ça. Et puis tout le monde reste là, ok, 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 ok. Pasteur dit, tu as fini? Oui, j'ai fini. C'est à mon tour, hein. C'est à mon tour. Père, dans le nom de Jésus. Le pasteur commence à taper une prière devant tout le monde. Tout le monde est resté là. Ah, et puis, il fait un signe au gars qui est là-bas, joue le piano. Le gars joue le piano encore avec le son musical derrière. Ça emmène encore une autre dimension. Et le pasteur commence à prier. Il a prié. Je vous dis que le gars en face était là. Il commençait à transpirer. Et puis le pasteur le fait, tu vois comment tu transpires? Si c'est pas que c'est mon Dieu qui est le vrai, vraiment. Gloire à Dieu. Troisième vérité. La Pâque symbolise, pour troisième vérité, la Pâque symbolise l'immunité divine du croyant. Est-ce qu'on peut dire avec moi, je suis immunisé? Exode 12 au verset 13, et on a bientôt fini. Exode 12 au verset 13 nous dit, le sang, c'est Dieu qui parle, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. La célébration de la Pâque est le souvenir du jour où Dieu s'est engagé. Dieu s'est engagé par une alliance perpétuelle, c'est-à-dire par une alliance éternelle à ne pas nous frapper, nous, son peuple. Lorsque le Dieu frappe le monde de jugement, nous, l'Église, on est préservés. Lorsque Dieu était en train de frapper l'Égypte de toutes sortes de plaies, le peuple juif était à Goshen et eux, ils étaient totalement immunisés. De même, lorsque Dieu frappe le monde dehors, lorsque l'on entend crise économique, lorsque l'on entend ravage, catastrophe naturelle à gauche et à droite, sois serein. Dieu dit que toi, parce que tu es enfant de Dieu, de mon Église, je ne te toucherai pas. L'Église, aujourd'hui, est immunisée par le sang de Jésus-Christ. Amen. Quand Dieu nous regarde, il voit Christ. Le sang nous a complètement purifiés. Dieu ne voit plus nos fautes. Dieu ne voit plus nos péchés. Pas plus tard qu'hier, j'étais au téléphone avec un jeune homme qui venait ici il y a quelques mois. Il est venu ici pendant plusieurs mois. Ensuite, il a eu un problème dans sa vie, très difficile. Et je lui dis, et la semaine dernière, je l'ai rencontré dans la rue. Et je lui ai dit, viens à l'église. Il dit, ouais, je veux venir, tout ça, mais tu sais, je vais te dire pourquoi je ne viens plus trop ces temps-ci. Je lui ai dit, c'est pas grave, viens. Et hier, je l'appelle. Il me dit, tu sais, à cause de ce problème, franchement, j'ai envie de te dire, mon pasteur, je me suis endurci et j'ai plus vraiment, je me sens plus à ma place à l'église. Je me sens coupable, etc. J'ai dit, arrête de me parler comme ça. Tu n'es plus coupable. Oui, ce que tu as fait, c'est grave. Tu as commis un gros péché. Oui. Mais Dieu t'a pardonné. Tu t'es repenti, non? Oui, pasteur. Je me suis même agenouillé et j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, mais sache que le sang de Jésus-Christ t'a lavé. Le sang de Jésus-Christ t'a purifié, t'a lavé. Tu n'es pas coupable. Sur ton front, il y a écrit non coupable. Et quand tu vas revenir à l'église, personne ne va te juger. S'il y a quelqu'un, ne serait-ce que par un regard, qui ose te juger, c'est moi qui vais m'occuper de lui personnellement. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a purifié. Tu as péché, oui. Tu es tombé, tu t'es relevé, non? La Bible dit, le juste tombe sept fois et se relève sept fois. Alors, tu t'es relevé et tu marches avec le Seigneur. Oui, tu prends tes responsabilités, tu assumes les conséquences de tes actes, mais tu es purifié de tes fautes. Tu es lavé de ton péché. Tu n'as plus rien à craindre, car Dieu, lorsqu'il voit, il te regarde, il voit le sang de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 6, au verset 16, Paul nous dit, en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Ah, j'aime cette version-là. Prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. En toutes circonstances, c'est-à-dire quel que soit ce qui peut arriver, saisissez-vous de la foi. C'est par la foi que tu peux te tenir devant la tentation, devant l'ennemi, devant Satan. Et lorsqu'il dit coupable, tu dis gars, non coupable. C'est par la foi que tu peux te tenir devant les gens. Et lorsque les gens te jugent, toi tu as les mains dans les poches et tu dis, je suis purifié et juste devant Dieu. Et la célébration de la Pâque, c'est se tenir debout et proclamer haut et fort que Seigneur, aujourd'hui, nous sommes justes devant Dieu. Par la foi, nous sommes purifiés et lavés de nos fautes. Amen. La célébration de la Pâque, quelles que soient les circonstances, Paul dit, saisissez-vous de la foi. Et quand le diable vient t'accuser, quand la vie vient t'accuser, quand les gens viennent t'accuser, il dit, prends la parole et les promesses de Dieu. Tu te tiens devant Dieu, tu ouvres la Bible et tu dis, voici ce que tu dis, Seigneur, à mon sujet. Voici ce que tu dis à mon sujet. Les gens disent ça à mon sujet, mais voici ce que tu dis à mon sujet. Donc, quelles que soient les attaques que Satan pourra t'envoyer, quelles que soient les attaques que le diable pourra t'envoyer, tu te tiens dans la justice de Dieu et tu dis, Seigneur, par la foi, au nom de Jésus-Christ, je suis justifié devant toi. Est-ce qu'on peut répéter cela après moi? Je crois par la foi. Dis-le avec conviction. Je crois par la foi que le sang de Jésus-Christ me protège, moi et toute ma famille, contre toutes les attaques de Satan. En Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur, car je suis divinement immunisé. En Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est le genre de prière que tu dois faire tous les matins. Amen. Gloire à Dieu. Quatrième vérité que la Pâque nous annonce. On a bientôt fini. La Pâque symbolise la naissance d'une nouvelle race d'hommes sur la terre appelée la nouvelle création. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne dit pas si quelqu'un deviendra en Christ. Il dit si quelqu'un est en Christ. C'est-à-dire c'est un fait établi, c'est ce que nous sommes en Christ. Et je suis une nouvelle création. Une nouvelle création, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'état spirituel dans lequel tu es aujourd'hui. Peut-être que physiquement ton corps n'a pas changé, mais spirituellement, tu es à l'image de Dieu. Quand on te regarde spirituellement, tu es comme Dieu. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tu es identique à Dieu. Le mot « image » dans Genèse 1:26 qui est ici, « faisons l'homme à notre image », c'est un mot hébreu qui veut simplement dire en français « caractère » ou encore « caractéristique ». Faisons un homme qui a les mêmes caractéristiques que nous. Je suis amour, il est amour. Je suis puissant, il est puissant. Je suis pur, il est pur. Je suis saint, il est saint. Et la nouvelle création est cette race d'hommes-là qui vit aujourd'hui sur la terre. Et c'est pour cela que Paul nous fait la distinction dans 1 Corinthiens 15, verset 47, lorsqu'il dit « Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Et il rajoute dans une autre version, il dit « Or, tous les enfants, dans la version parole vivante, il dit, or, tous les enfants de la terre portent la ressemblance de celui qui fut le premier tiré de la poussière du sol. Tous sont taillés sur le modèle du premier Adam. Tous sont donc terrestres. De même aussi, les enfants du ciel, c'est-à-dire toi et moi, portent en eux les caractères de l'homme venu du ciel, Christ. Là, il parle de toi. Là. Il parle de toi. Donc, ce n'est pas parce que, j'ai envie de donner un exemple, ce n'est pas parce que tu vois une maison, tu en connais l'apparence, que tu peux te permettre de dire que je connais la personne qui est à l'intérieur. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens, ils viennent vous voir et puis ils disent « Oh, frangin, ça va, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, hein? On était ensemble à l'école, tout ça. » Toi, tu dis « Je ne te connais pas. » Mais on se connaît, toi et moi. Oh, on a fait les 400 coups ensemble, on est sortis ensemble, on a fait... Je ne te connais pas. Tu as l'impression de connaître parce que la ressemblance t'est familière. Mais celui qui est à l'intérieur, le résident, il a changé. C'est une nouvelle création. C'est pour cela que la Bible dit que nous avons été recréés ou encore régénérés. Là, le mot régénéré, il y a le mot gène. Régénéré, ça veut dire que Dieu a pris les anciennes gènes, il a enlevé, il a mis de nouvelles gènes. Jean 1, verset 12 dit qu'à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir et le privilège de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu, du Saint-Esprit. Tu es une nouvelle personne. La célébration de la Pâque, c'est annoncer haut et fort que je suis une nouvelle personne. Nous sommes de nouvelles personnes. Nous ne sommes plus les mêmes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et enfin, cinquième vérité, la Pâque symbolise, et ça j'aime ça, la Pâque symbolise la victoire totale de Christ à la croix sur le monde des ténèbres. Ah oui. Et pour finir, je vais vous donner ce verset. Un verset ô combien important. Je me suis dit, quel verset peut vraiment symboliser ou encore refléter cette vérité que Christ a tout accompli à la croix et sa victoire a été totale. Colossiens 2 au chapitre 2 au verset 13 dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. » En nous faisant grâce par toutes nos offenses. Suivons bien maintenant à partir de là. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il dit, il a dépouillé. Suis bien le mot que Dieu utilise. Il a dépouillé. C'est quoi dépouiller quelqu'un? Dépouiller quelqu'un, c'est... On l'a mis nu. Tu vois? Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, que personne donc ne vous juge. Au sujet de quoi? Au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne ne vous juge. Tu veux que j'aille encore plus loin? Ok. Je vais aller plus loin. Verset parole vivante. Il dit, verset 15, il a démasqué et puis il a désarmé. C'est, je vous assure, quand vous comprenez cette révélation-là, même un sorcier, oh, le sorcier, il est parti se laver dans la rivière, il est revenu, tout ça. Oh, il va me tuer. Sorcier, tu es désarmé au nom de Jésus. Je lisais une fois sur internet le témoignage d'une femme. C'est le frère, c'est monsieur Moukala qui m'avait parlé de cette femme-là. Et je suis allé sur internet, je suis allé chercher. Et elle a écrit un livre et puis elle raconte dans son livre son histoire. Elle dit qu'un jour elle est rentrée à la maison et à la terrasse de chez elle, elle trouve Satan assis à sa terrasse. Ah, Satan. Le Saint-Esprit te dit dans ton esprit que celui qui est assis là, c'est Satan. Il y en a, la première chose qu'ils font. Elle n'a pas commencé à polémiquer avec lui. Elle s'est tenue devant lui. Elle l'a seulement regardé. Elle dit, je l'ai regardé droit dans les yeux. Et je lui ai dit, tu es vaincu, Satan. Tu es vaincu. Tu ne peux rien contre moi. Tu ne peux pas me toucher. Qui que ce soit voudra te faire du mal. On pourra raconter tout ce qu'on veut à ton sujet. Que, oh, tel oncle est dans tel truc ou truc. Oh, telle personne fait ceci dans la famille. Oh, dans notre famille, il y a une malédiction héréditaire qui dit que toutes les premières filles de la famille ne peuvent pas enfanter. Et comme toi, comme par hasard, tu es la première fille de ta mère, toi aussi tu dis, oh, je ne peux pas aussi enfanter. Dieu dit que toutes ces choses-là ne peuvent rien contre toi. Parce que Satan a été désarmé et dépouillé. Dépouillé. Et regarde ce qu'il dit ensuite. Tout pouvoir de l'enfer... Enfin, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse devant qui? Devant l'univers. Et il rajoute, il les a traînés, ah j'aime cette phrase-là, il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Vous savez, ça veut dire quoi? Vous avez déjà vu le film Gladiator? Vous avez déjà vu ce film-là, Gladiator? C'est un film où, quand le gars, il a tué son adversaire, là, derrière son char, là, il traîne le gars, et puis il fait le tour de l'arène. Devant tout le monde. Ce que Jésus-Christ a fait à Satan, c'est ça. Il l'a pris derrière son char et puis il l'a traîné dans toute l'arène de l'univers pour montrer à tout le monde que ce gars est vaincu. Il ne peut plus rien faire. Telle est la cinquième vérité. Donc, ce que j'ai envie qu'on retienne ici, c'est que l'acte qui t'accusait devant Dieu a été effacé. Un, et détruit à la croix par Jésus-Christ. Deux, le monde des ténèbres, Satan et tous ses acolytes ont été dépouillés et désarmés. Tu n'as plus rien à craindre. Trois, Satan et le monde des ténèbres a été humilié publiquement devant l'univers. Et sa défaite a été totale. Quatre, que personne donc ne te juge au sujet d'une fête en te faisant croire que c'est juste la fête des chocolats. Ce n'est pas une fête des chocolats. C'est une fête où tu annonces haut et fort que Satan a été désarmé, que tu es libre en Christ et que la victoire de Christ a été totale au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, j'ai envie qu'on se lève simplement. J'ai envie qu'on se lève. Et je voudrais que tu pries pour finir. Je voudrais que tu pries. Je voudrais non seulement que tu rendes grâce à Dieu, que tu rendes grâce à Dieu pour la Pâque. Car Christ est notre Pâque. Christ est ta Pâque. Je voudrais que tu lui rendes grâce, que tu lui dises merci. Mais je voudrais aussi que tu lui dises, Seigneur, merci pour le pouvoir que tu m'as donné. Je ne suis pas juste un simple chrétien qui se lève tous les dimanches matin pour venir prier dans une petite église. Non! Je suis une nouvelle création. Je suis la création merveilleuse de Dieu. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Et Dieu, par son esprit qui habite en moi, m'a donné le pouvoir de pouvoir le représenter sur la terre. Le pouvoir de refléter sa grandeur, sa majesté, sa nature, tout ce qu'il est sur la terre. Et rien ni personne ne peut me nuire. Rien ni personne ne peut te nuire. Quelles que soient les paroles que des gens ont pu prononcer à ton sujet, sache que rien ne peut t'atteindre parce que Dieu, lorsqu'il te regarde, il dit « Je vois le sang de Jésus-Christ ». Et parce que je vois le sang de Jésus-Christ, tu es pur. Parce que je vois le sang de Jésus-Christ, tu es juste. Parce que je vois le sang de Jésus-Christ, tu es honoré. Parce que je vois le sang de Jésus-Christ, tu as accès à ma présence. Romains 5 au verset 1 dit que par la foi en Jésus-Christ, nous avons accès à la présence du Père. Seigneur, merci. Parce qu'en toi, Seigneur, oh Dieu, tu es notre Pâque. Tu es notre Pâque. Tu es notre justice, Seigneur Jésus. Tu es notre sanctification. Tu es notre vérité. Ta parole est la vérité et ta parole nous sanctifie, Seigneur. Merci, Père de grâce, pour la Pâque qui symbolise, premièrement, la fin de l'esclavage au péché. Le péché n'a plus d'emprise sur nous. Le péché n'a plus d'emprise sur mon frère et le péché n'a plus d'emprise sur ma sœur dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quelles que soient les tentations qui peuvent survenir dans notre vie, Seigneur, nous sommes supérieurs à ces tentations au nom de Jésus. Toute tentation n'est qu'un test, simplement pour éprouver notre foi. Et merci parce que nous sortons, Seigneur, de toute tentation plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Parce que Christ a payé le prix fort pour ma liberté, alors je ne me laisserai plus, Seigneur, embarquer sous le joug de la servitude dans le nom de Jésus-Christ. La Pâque symbolise la naissance d'une nouvelle ère. Aujourd'hui, nous opérons sous une nouvelle ère, l'ère de la liberté du peuple, l'ère de la domination, l'ère, Seigneur, de l'autorité retrouvée, l'ère de la paix avec Dieu, l'ère de la communion avec le Saint-Esprit, l'ère de la communion avec le Père. Et parce qu'aujourd'hui, tu vois le sang, aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu, nous avons accès à toi. La Pâque, Seigneur, nous immunise, nous les croyants. Rien ne peut nous nuire, rien ne peut nous atteindre. Car celui qui est en Christ est une nouvelle création. Celui qui est en Christ, Seigneur, a accès à ta présence et ta grâce nous environne comme d'un bouclier. Ta Pâque symbolise, Seigneur, la victoire totale de Christ à la croix. Elle symbolise la victoire totale de Christ, Seigneur, sur le monde des ténèbres. Car tu les as traînés dans ton char triomphal, dans la reine de l'univers, afin de les humilier devant toute la création, oh Dieu. Et pour cela, Seigneur, rien ni personne ne peut nous nuire. Nous nous tenons fermes, avec assurance, Seigneur, debout, en disant haut et fort qu'aujourd'hui, Seigneur, telle est notre fête, la fête de la Pâque, Et Seigneur, au travers de cette fête, nous annonçons haut et fort, Seigneur, ta victoire à la croix. Nous annonçons haut et fort notre renaissance, notre rédemption et notre résurrection avec toi, Seigneur Jésus. Alors à toi soit la louange, à toi soit la gloire et à toi soit l'honneur, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois glorifié, sois exalté, sois élevé et sois ovationné au milieu de ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oh merci Père. Plus de maladie, plus de maladie, plus de péché, plus d'esclavage. Rien ni personne ne pourra vous nuire. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, toute maladie sèche, toute cécité sèche, aucune malédiction ne pourra vous nuire parce que je vois le sang et vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À toi soit toute la gloire et la louange. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.